Et bonjour, vous êtes bien sur Fly FM. Il est 10h et des poussières. Donc aujourd'hui, en tant que directeur d'antenne, j'ai tenu à être là pour la première de notre ami JB. JB donc va vous présenter tous les vendredis de 10h à 12h une émission qui s'appelle C'est Vendredi Sport. Bien sûr, vous avez compris dans le titre qu'il s'agira de parler principalement de sport. Et JB, qui a une connaissance extraordinaire de ce milieu, va pouvoir recevoir des sportifs de tout genre, hein, de tout sport, justement. Et donc, on va pouvoir discuter avec eux. Même à la rigueur, peut-être, on essaiera de prendre des appels. Peut-être pas aujourd'hui ou dans quelques temps, on pourra prendre des appels.
Oui, que tu allais nous dire, on va faire un match.
Ah, aussi, on pourra. Et donc, les auditeurs pourront poser leurs questions. Hein, JB, ce sera sympa. Donc, voilà. Et aujourd'hui, JB va recevoir un footballeur.
Bonjour.
Tu es toujours en activité?
Ah, 43 ans, non.
Ah, 43 ans. Oh, il est fait pas, alors.
C'est gentil, hein? Merci.
Ah, ça déconne. Alors, JB, oh, il était patient, il va me piquer le micro. Allez, je te laisse. Bonne émission, JB.
On va vous présenter quand même l'invité, puisqu'on n'a pas dit son nom, c'est Thomas Millenel, ancien joueur de Laval, entre autres, Damien. Mon petit, mon grand, comment t'appeler?
Et qui est à la retraite.
On est vite à la retraite quand même au foot.
Bon, t'es à la retraite depuis peu parce que tu es actuellement entraîneur de l'Olympique Nové.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et tu joues encore l'année dernière, il me semblait un peu.
Ouais, je joue encore un petit peu, mais bon, on peut dire que la tête elle veut, mais les jambes elles veulent plus.
Alors, JB. Dis-moi un peu, cet invité, tu le connais de longue date, explique-nous un peu.
Alors bon, on a des amis en commun.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, quoi. Comme quoi, même si je suis descendu dans le sud.
Alors j'allais te dire, tu es de quelle région?
Je suis du nord.
Carrément.
Ah ouais, là, le Nord-Nord.
Là, tu sais, c'est bien parce que c'est toi qu'on te reçoit, parce que normalement, les gens du Nord, on les reçoit pas.
En plus, avec le temps d'aujourd'hui, non,
je plaisante. Moi, j'ai plein d'amis du Nord. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait venir à Nantes, donc, si je comprends bien? Qu'est-ce qui t'a fait de finir ta carrière dans le Vaucluse? Enfin, voilà. c'est le Bouches-du-Rhône, pardon.
Voilà, bah, en fait, quand j'ai fini mon dernier contrat à Boulogne, j'avais 34 ans et c'est vrai que les jambes et puis la flamme y étaient un petit peu moins. C'est quand même un métier qui demande énormément d'investissement et bon, je voulais respecter le foot et pas mal finir. Du coup, quand j'ai fini, j'ai rejoint ma mère qui habite à Nantes depuis maintenant 20 ans.
Ah, d'accord. Donc, tu avais la famille. Très bien. On comprend mieux, effectivement.
Ouais, le cheminement.
Et tu as été professionnel combien de temps, dis-moi?
Professionnel de 10 ans, exactement.
Ouais. Ouais.
Mais avant, ça n'a pas été toujours très, très facile. Comme je dis souvent, je suis passé un peu pour arriver dans le monde pro. J'ai signé à 23 ans.
Ah oui, c'est pas tard.
Ouais, je dis souvent que je suis passé par le Velux.
Alors, dernière question, après je passe la parole à notre JB, parce que tu sais que je suis fervent, j'en aurai des questions. Tu n'es pas passé donc par une école de sport?
J'ai pas fait de centre
autodidacte.
Moi j'ai ma mère qui était prof.
Ouais.
Et elle a toujours refusé à l'époque que je rentre dans un centre de formation. Elle m'a dit quand tu auras ton bac, tu pourras faire ce que tu veux. Donc j'ai eu mon bac S et après j'ai eu le droit de jouer au foot.
C'est les mamans, ça.
Et là, est-ce que je
peux
poser des questions? Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Alors, c'est la retraite,
un peu jeune.
Ouais, du coup, il a fallu quand même trouver un travail parce que même si on dit que les joueurs de foot gagnent énormément bien leur vie, il faut quand même après travailler. Et ça a été long, c'était un cheminement un peu compliqué parce que même si je m'y étais préparé, il y a quand même une adrénaline, il y a quelque chose, il y a un manque qui est difficile à compenser. Et après 2 ans, j'ai décidé en fait d'être paysagiste. Donc je suis parti un an en formation et j'ai monté ma société, La Forme de Votre Jardin.
C'est pas mal.
Ouais, un petit jeu.
Eh oui, football toujours.
Et du coup, ça.
Mais comme ça, t'es alerte dehors.
Mais exactement, ça faisait partie des critères qui étaient importants pour moi. Le fait d'être à l'extérieur, tout était différent. Chaque jour, c'est un nouveau défi. Et c'est l'adrénaline que je recherchais.
D'accord.
JB, allez, à toi.
Notre prochain invité, on va le recevoir via Zoom, les plateformes. C'est l'entraîneur du Puy en Velay, qui est une des surprises de ces huitièmes de finale de Coupe de France en sortant Laval.
Ah oui,
que tu connais très bien.
Il y a même des joueurs avec qui j'ai joué encore. C'est de plus en plus rare maintenant, parce que je commence vraiment à être vieux.
C'est là que tu t'aperçois.
Tu as de moins en moins. On va revenir, avant de prendre Olivier, sur toi, ton parcours lavallois. Parce que tu connais bien le Basseur, tu as passé 3 ou 4 ans.
3 ans là-bas, ouais. 3 ans.
3 ans là-bas, tu as atteint avec Amiens la finale de la Coupe de France en 2001.
Ouais.
Ça, c'était une belle saison.
Ah, c'était extraordinaire.
Ouais, c'était une belle saison. Et tu retiens quoi de Laval? Parce qu'il y a une vraie ferveur populaire à Laval. C'est un club qui ramène du monde, même national. Moi, j'ai fait la saison là-bas, il y avait énormément de monde. Et c'est.
Une ambiance incroyable, une ville où ma fille est née déjà, donc ça comptera toujours. Et c'est le premier club qui m'a fait confiance. Donc il aura toujours une part importante pour moi. Ils ont pris un risque en allant chercher un joueur de 23 ans, non confirmé. Ils ont pris le pari et ça, rien que ça, ils auront toujours une place pour moi. Ils m'ont fait confiance et je les ai encore au téléphone. La dernière fois, ils me demandaient un renseignement sur un joueur. On a des liens qui seront toujours un peu spéciaux. Quoi.
Tu les aides un petit peu dans la détection sur le coin?
Non, pas, je dirais pas ça, parce que c'est vrai que le foot, maintenant, je m'en suis un petit peu détaché. Ah, ouais. Mais comme c'est des joueurs, c'était pour Marvin Baudry, joueurs avec qui j'avais joué à Amiens, du coup, ils demandent un petit peu, mais c'était des renseignements, mais je pense qu'ils n'attendent pas forcément mon avis pour les prendre.
Alors, une chose la plus importante, j'allais dire, que j'ai oublié de poser, la question, tu sais ce que c'est?
Non.
Quelle place tu jouais? Que ça, c'est le plus important, ça.
Défenseur central. Ouais.
D'accord, tu cassais, quoi.
Non,
enfin, non
c'est l'inverse.
Ça n'existe plus. Dimeco, il est parti, c'est fini.
Oui, c'était un autre temps, ça.
Oui, putain. C'était le bon temps, j'allais dire presque, mais non, quand même, non, c'était. Bon, j'y vais. C'est pas mon émission.
C'est la mienne, je suis en train de résoudre des problèmes techniques.
Il faut savoir qu'effectivement, je reste un peu à l'antenne parce que j'y vais a quelques problèmes pour joindre ses invités.
Ouais.
Voilà.
C'est pas facile. C'est vrai.
Donc, c'est pas évident, c'est le premier.
On essuie les plâtres.
La technique n'est pas évidente à mettre en place.
Et alors, Claudie,
oui,
je crois qu'on va faire une petite pause musicale.
Oui, j'ai écouté une petite chanson.
Allez, on y va. À tout à l'heure.
Tu vas même plus dire.
Et on vous reprend en antenne avec toujours Thomas Mienel. Avec Claudie, qui est sur son portable, et Jacques à côté.
Affaires privées à gérer.
Alors, avant de prendre Olivier Mianet en direct avec nous, on va parler de la saison peut-être actuelle de Laval, qui fait une très très belle saison. Quatrième de Ligue 2 pour l'instant, avec une équipe qui a été quand même pas mal renouvelée par rapport à l'année dernière, où Laval s'est sauvé difficilement de sa première année de Ligue 2. Ils font une très très belle saison puisqu'ils sont à 2 points du podium pour le moment. Et ils ont raté les huitièmes de finale malheureusement battus par le Puy. Est-ce que tu as suivi un peu la saison? Est-ce que tu as suivi un peu les résultats de Laval là, cette année, Thomas?
Moi, bien sûr que je les suis. Peut-être que leur classement en Ligue 2 ou la façon dont ils ont commencé le match vient aussi un peu du championnat et qu'on sent que pour eux c'est important de bah, ils sont pas loin et ça permettrait à Laval de retourner en Ligue 1, ce qui serait vraiment exceptionnel quoi.
Ouais, ce qui serait exceptionnel parce que c'était pas prévu de les retrouver aussi bien. Ils ont changé beaucoup de joueurs cadres. Alex Sauvage qui est parti, que tu connais bien, qui est gardien titulaire depuis des années, qui est parti du côté d'Amiens.
Ouais, c'est ça aussi. Hein,
voilà, Julien Mandjouti qui était un dépositaire du jeu pendant 2 ans, même s'il a été blessé les dernières, qui est parti du côté de Bastia. Il a fallu se renouveler. Malik Choukounté qui est arrivé après une saison difficile, qui est arrivé de Nîmes avec les premiers extra-sportifs de Nîmes, qui fait une très très belle saison à la pointe de l'attaque.
Ouais, mais je pense que la mayonnaise, dès le début, elle a bien pris. Et puis les résultats ont nourri un peu ce groupe. Et c'est. Je suis pas trop étonné parce qu'en les regardant jouer, ils ont vraiment une consistance qui leur permet de tenir toute la saison.
D'accord.
Alors, tiens, j'ai une autre question. Bon, Laval, tu sais que comme c'est dans le nord, enfin, nous on dit le nord, je sais que c'est un peu plus l'ouest, mais j'ai un bon copain qui s'appelle Thomas aussi. Thomas Mangani, tu connais ?
Oui, je connais de nom, mais bon, pas personnellement.
Tu as joué contre ou pas ?
Oui,
mais parce que c'est bon. Il est d'Aubignan, le petit village à côté de Monteux.
D'accord.
Originaire, moi j'ai joué contre son père d'ailleurs à l'époque. L'époque glorieuse, il y a 40 ans ou 50 ans. Et donc, il est parti à Ajaccio, justement, finir sa carrière.
Si dans le coin, il y a quand même. Vous êtes des pourvoyeurs de joueurs. Il y en a quelques-uns vraiment qui. On sait qu'ici, là, il y a vraiment un vivier.
À l'ACA, il y en a qui sont sortis pas mal de l'ACA, à Avignon. C'est vrai que ça commence à bien.
Vous êtes des pourvoyeurs de joueurs, c'est ça ?
Ok, JB, à toi.
Ouais, je reprends le micro. Où à l'antenne, on a Olivier Mianet, directeur sportif du Puy en Velay. Tu m'entends, Olivier ?
Très bien.
Bon, on t'entend, nous aussi, sur le plateau, avec Thomas Mianel, ancien joueur de Laval. Du coup. On t'a pas entendu, excuse-moi.
Je connais bien Thomas Mianel, on a joué l'un contre l'autre à plusieurs reprises.
Ouais, je me doute. Donc, on va revenir un peu avec toi sur la magnifique performance d'avant-hier et cette qualification. Totalement logique sur l'ensemble du match face à cette équipe de Ligue 2, très belle équipe de Ligue 2 de Laval qui fait une très très belle saison. Vous avez fait un très très gros match parce qu'il n'y a rien à dire, vous avez été dominateur sur l'ensemble du match. Et c'est une magnifique qualification, c'est une première pour une équipe de Haute-Loire et une première pour l'équipe du Puy d'arriver en quart de finale du coup.
C'est historique pour le club, c'est une première, on avait déjà été. Une fois en huitième, on n'avait pas répondu à l'événement, on a été éliminé par Rumilly derrière, à l'époque. Donc on n'avait pas pris l'événement par le bon bout. Et bien là, on peut dire qu'on l'a cette fois-ci pris par le bon bout.
Ouais, moi franchement j'étais vraiment étonné par votre match. Il y avait vraiment de la consistance et c'est mérité hein, sur l'ensemble du match. Moi j'étais un petit peu surpris par Laval qui a en commençant à 4 derrière. Je sais pas si c'était un souci de joueurs ou le coach qui a essayé de quelque chose, mais ça les a un peu perturbés. Vous en avez profité, vous méritez vraiment votre victoire hein.
Merci, mais après, après, ils avaient fini, ils ont fait un peu l'inverse de ce qu'ils avaient fait contre QRM, parce que contre QRM, ils avaient commencé à 3 et fini à 4. Là, ils ont fait l'inverse, ils ont commencé à 4 et fini à 3. Après, voilà, je pense qu'on a aussi, alors nous, je pense qu'il ne faut pas enlever la performance que les garçons ont pu faire, mais eux, ils ont été au niveau là où on les attendait, et puis ils ont été même. Ils ont vraiment été très très bons, ils ont répondu présent, les nôtres. Après, je pense que Laval, ils étaient sur une série de matchs un peu
compliqués.
Déjà, ouais. On voyait qu'au championnat, c'était sur une victoire sur les 8 derniers matchs. On sent que voilà, ça pêche un peu physiquement. Et là, on l'a vu, j'étais un peu surpris aussi. Je pensais les voir un peu plus présents dans les duels. Et nous, on a bien répondu, on a gagné beaucoup de duels. Et j'avais peur, moi, un peu là-dessus, parce que c'est une équipe très athlétique, avec des joueurs qui mesurent 1,88 un peu partout. Voilà, c'est une équipe qui est très athlétique, une vraie équipe de Ligue 2. Et je pensais qu'on allait avoir des difficultés dans les duels. Et là, on a senti quand même que sur ce point-là, on a quand même répondu présent et on a été bien, bien au-dessus d'eux sur ce domaine-là. Donc, Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de fatigue? Est-ce que aussi on n'a pas répondu à l'événement? Parce que c'était, je crois, historique aussi pour eux, parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas atteint ce niveau de compétition en Coupe de France. Donc je pense que ça leur tenait à cœur de faire un bon match. Est-ce qu'ils sont passés à travers si possible? Voilà, il y a un peu des ingrédients de tout. Notre prestation qui était bonne, eux qui étaient un peu moins bien, la gestion de l'événement. Voilà, en tout cas, la surprise est magnifique pour le Puy et pour la Haute-Loire.
Mais écoute, ouais, la surprise est magnifique. Maintenant, pour prochaine étape Rennes, du coup, puisque le tirage a eu lieu, malheureusement, Massot n'est pas homologué pour les quarts de finale. Donc, vous allez devoir délocaliser, certainement Clermont ou à Saint-Etienne, je pense. Une des deux. Tu as déjà...
Justement, pour aborder un peu le sujet. Après, aujourd'hui, honnêtement, on n'a aucune idée d'où on va aller. Parce que déjà, il y a une question de coût.
Donc, ouais, bien sûr.
On arrive à avoir les bons tarifs, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir interroger les bonnes personnes, savoir les coûts que cela engendre. Et puis après, il y aura les décisions qui seront prises par rapport à des réalités économiques d'abord. Et l'important pour nous, c'est que ce match, puisse le jouer. C'est encore un match en semaine le soir, donc c'est pas facile pour les gens de se déplacer.
Oui.
Donc on espère le jouer le plus proche possible. Si ça peut se faire à Saint-Etienne, en tout cas moi c'est ma volonté, c'est la volonté, je pense, de beaucoup de gens. Après, est-ce que c'est réalisable? Malheureusement, à un instant T, je peux pas apporter de réponse. Nous-mêmes, on n'a pas les réponses. Donc on va multiplier les réunions pour savoir. Où est-ce qu'on va pouvoir jouer ce match?
Ouais, parce qu'en plus il arrive vite le match, c'est dans 15 jours, il me semble.
C'est ça 27, 28, 29
ouais. février. Et donc on va parler d'une actualité un peu plus proche et peut-être de vos objectifs qui sont prioritaires, c'est le championnat, je pense. Parce que vous êtes pour le moment deuxième à un point d'Aubagne, s'il me semble bien, dans ce championnat dans cette National 2, pardon. Et aujourd'hui, le vrai objectif, je pense, c'est la remontée nationale et de pérenniser le club à ce niveau-là pour toi.
Ça n'était pas cette année. Pourquoi? Parce qu'on est descendu. Il a fallu reconstruire tout le projet, sachant que l'entraîneur est parti, sachant que beaucoup de joueurs sont partis. Et on est reparti quasi d'une feuille blanche. Donc l'objectif, en plus dans une année de refonte où il y a quand même 5 descentes par poule,
oui.
L'objectif cette année, c'était vraiment d'obtenir le maintien le plus vite possible. Ce qui est quasiment fait. Hein. Voilà, il nous reste peut-être. Deux victoires à faire pour pouvoir l'obtenir officiellement. Après, effectivement, si on n'est pas loin des places, si on n'est pas loin en termes de points des premières places, si on peut, une fois que le maintien est acquis, jouer la montée, on ne va pas se gêner. Mais c'était pas l'objectif prioritaire du départ.
Ouais, maintenant que vous y êtes, bon, autant prendre le train quand il passe. Hein. Vous faites vraiment une belle saison. Ça fait un peu Giroud, là, ce que tu nous as fait, là.
On va tout faire, une fois que le maintien sera acquis, ce qui est dans pas longtemps, j'espère, on va tout faire pour se lutter à la montée. On est monté déjà deux fois en 3 ans. Si on pouvait faire trois fois en 4, ça serait plutôt pas mal.
Ouais, vous prenez-le. En plus, on sent vraiment que le groupe, il a une force et il va falloir s'appuyer dessus. Je pense que vous êtes capable de pourquoi pas continuer encore cette aventure en Coupe de France, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Et puis, votre pain quotidien avec le championnat, ça montre que vous travaillez dans le bon sens et que les choses, tous les feux sont au vert pour vous, je pense.
Il faut faire en sorte qu'ils y restent.
Ouais,
c'est toujours pareil.
Ouais, ça c'est ton boulot, ça. Hein.
Ouais.
Alors moi bonjour, je me présente, c'est Roland, directeur des programmes de Fly FM. Certaines fois, même assez souvent, les équipes de Ligue 1, c'est peut-être une question un peu naïve, mais laissent la recette aux équipes des divisions inférieures. Vous avez essayé de voir avec Rennes?
Après, ce n'est pas des choses qui se demandent en général, c'est des choses qui se font naturellement.
Ouais.
Après, nous, on n'a pas de demande particulière par rapport à ça. Alors, effectivement, nous, on a su le faire aussi aux équipes qu'on a pu
jouer,
qui étaient de niveau inférieur.
Mm-hmm.
Je pense à Cessin, notamment à Grenoble, où on a laissé la totalité de la recette, voilà, parce que c'est coutume. Après, il y a des clubs qui le font, d'autres qui le font pas. Après, ce n'est pas des choses qui se demandent.
Oui, bien sûr.
On n'aura pas la demande au officiel hein, au Stade Rennais pour qu'il nous laisse la relève.
Oui, mais en fait, ça ferait plaisir.
Ça, c'est des choses qui se font naturellement ou pas.
D'accord.
Moi, je veux rebondir sur ce qu'a dit Thomas avec l'harmonie dans cette équipe cette année. La bonne entente, c'est un excellent collectif. C'était, comme tu as dit, pas évident parce que vous partez d'une page blanche avec Roland Vira qui est resté quelques années au club. Tu as changé d'entraîneur par rapport aux années précédentes et cette année. Que vous a amené cet entraîneur-là? Et quelle est la différence notable sur l'esprit de groupe? Est-ce qu'il y a eu des changements vraiment notables dans la construction du jeu, dans le rapport avec le joueur, des choses comme ça?
L'avantage qu'on a cette année, c'est vrai que c'est un groupe qui est jeune, donc avec un peu d'insouciance. Sur les groupes auparavant qu'on avait, c'était un peu plus de maturité, des joueurs d'expérience, des joueurs qui avaient connu des niveaux au-dessus. Donc dans la gestion quotidienne, c'est pas du tout la même gestion. Là aujourd'hui, c'est des garçons qui sont jeunes, qui sont insouciants, on a fait en sorte de faire attention à l'état d'esprit, parce que pour moi aujourd'hui, la réussite d'une saison, il y a l'aspect football, il y a l'aspect technique, tout ça.
Ouais,
mais aujourd'hui, le recrutement, en tout cas dans le recrutement, on s'attache à essayer de recruter d'abord des bonnes personnes, parce que ça, voilà, c'est ce qui permet de vivre les saisons qu'on vit aujourd'hui. C'est aussi l'état d'esprit de ce groupe et c'est vraiment, vraiment en totalité tous des bonnes personnes. Et ça, déjà, ça fait beaucoup sur la réussite la saison.
Malgré le groupe jeune, on a quand même senti une certaine maturité de l'équipe et la façon déjà de gérer l'événement, on les a sentis vraiment une force, une maturité qui, je pense, il va falloir s'appuyer dessus, que ce soit en championnat ou même pour la suite de la compétition.
Ça dégage une certaine maturité dans le jeu. Alors on est monté crescendo au début de saison, c'était moins vrai, justement c'était un peu notre défaut, on manquait de maturité. Aujourd'hui, on a vu l'évolution, on voit l'évolution du groupe. Après, moi, je trouve que Stéphane, il fait un travail exceptionnel.
Oui, bien sûr.
Parce que réussir à collectivement à sortir ce qu'on arrive à sortir depuis quelques semaines, avec un groupe tout neuf, des gens qui ne se connaissent pas, des joueurs qui arrivent de toute la France, avec un staff nouveau. Voilà, je ne pensais pas que ça allait prendre aussi vite, donc il faut saluer le travail du staff technique au quotidien. Après, c'est le travail de tout un club, mais eux, sur le terrain, ils ont su imprégner rapidement leur projet de jeu. Les joueurs, on sent qu'ils le maîtrisent, voilà, ce projet de jeu, on sent qu'ils sont sereins dans ce qu'ils font. Et ça, je trouve que c'est quand même assez fort d'avoir fait ça en si peu de temps.
Ouais, tu as tout à fait raison par rapport à ça. Moi, je veux revenir un peu sur la cellule de recrutement, et c'est un peu une grosse partie qui t'appartient à toi. Aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, elle a relancé d'anciens pros, elle révèle beaucoup de nouveaux talents. Vous faites sur le recrutement et sur le tremplin que le club peut donner à plein de nouveaux joueurs, je trouve que c'est quand même très très bien ce que vous faites.
Moi, ça fait maintenant 20 ans que je fais ça. Je dis, j'ai croisé Thomas, alors je suis pas sur le terrain parce que j'étais pas joueur, moi. Mais on s'est affronté à plusieurs reprises, notamment quand j'étais à Beauvais, il était à Amiens. Voilà, ça fait longtemps que je suis sur le. Voilà, moi j'ai une manière de travailler, j'essaye de perdurer là-dessus. Je vois beaucoup de matchs, j'ai un réseau. Voilà, aujourd'hui, le recrutement, ce qui est important, c'est le réseau. Aujourd'hui, voilà, ça vaut tout l'or du monde, plus qu'autre chose, parce que aujourd'hui, ça me permet d'aller chercher des joueurs un peu partout. Après, moi, je me suis toujours attaché à vouloir, sur des clubs amateurs, déjà, on n'a pas les moyens de garder nos bons joueurs, malheureusement. En tout cas, c'est difficile. Donc, l'idée, en fait, de l'identité que j'ai voulu, en tout cas, depuis que je suis au Puy, depuis 5 ans maintenant, bientôt, c'est ma 6e année, j'ai voulu essayer de. Au-delà du projet sportif, de pouvoir avoir une identité d'un club qui est capable de soit révéler des joueurs, soit relancer certains joueurs qui sont dans une période un peu difficile, ce qui peut arriver à beaucoup de joueurs. L'idée, comme Bénédine chez nous, Mehdi Bénédine, c'est un garçon qui a connu déjà le niveau supérieur, qui est formé à Monaco, qui a roulé un peu sa bosse, même s'il n'est pas si vieux que ça, il a que 27 ans. Donc c'est pas un vieux, et aujourd'hui il n'a rien à faire en N2. Voilà, il est là parce qu'il est resté un an sans jouer, et que quand on reste un an sans jouer, bah, les clubs sont un peu frileux. Et nous, aujourd'hui, à notre niveau, avec les moyens qu'on a, on ne peut pas se permettre d'être frileux. Donc, on doit aller sur des profils comme ça et ça les relance. Et ça, c'est des joueurs qui vont rebasculer sur le monde professionnel, comme d'autres l'ont fait avant. Et puis, d'autres joueurs qui sont plutôt là pour profiter. On a un climat de travail aussi qui est très serein. Donc, ça, c'est hyper important. Ça, c'est pour moi une dominante dans la réussite des clubs. C'est un travail, un climat serein. Voilà, les dirigeants, ils sont à leur place. Ils ne viennent pas mettre la pression au groupe sportif, que ce soit le coach, que ce soit moi. On a des objectifs, on fait le bilan en fin d'année, on est dans les objectifs, on n'y est pas. Et voilà, au quotidien, on a cette sérénité de travail qui vaut tout l'or du monde et qui, pour moi, est la clé de la réussite des projets sportifs, que ce soit au Puy ou ailleurs. Voilà. Quand on regarde ce qui se passe à Brest, aujourd'hui, je compare sur la Ligue 1, bah, c'est très serein. Voilà, Greg Lorenzi, il bosse, il travaille, il n'y a personne qui vient lui mettre la pression et on voit le résultat. Je peux prendre aussi le stade de Reims. Voilà, il y a un groupe de personnes qui est à la tête du club. Ah, c'est serein, M. Caillot, il leur donne des objectifs et il n'y a pas de. Et on voit bien que ces clubs-là, et les clubs à grosse pression, gros objectifs, bah, ils sont en difficulté parce qu'il y a trop de choses. Et aujourd'hui, je pense que la réussite d'un club, elle se matérialise aussi par ce climat de sérénité, de pouvoir laisser les gens travailler, aller au bout du processus. Après, ben voilà, comme partout, il y a des bilans à faire, et puis après, on est dedans, on n'est pas dedans, ça c'est autre chose, mais en tout cas, il y a cette facilité de travail et de climat qui fait que c'est propice à la réussite.
Après, dans le foot, on fait souvent l'erreur, on est souvent trop pressé. On veut tout vite, des résultats vite, on est souvent trop pressé, ce qui fait, il y a souvent des erreurs du coup qui sont commises avec en voulant tout de suite, alors que le foot, un groupe, un club, ça se construit sur la durée. Mieux on est structuré, plus loin on va, je pense.
C'est sûr, Thomas, t'as tout dit. Aujourd'hui, aller vite, c'est mieux quand on peut aller vite. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des étapes. Les choses, elles doivent se construire. Quand on construit une maison, on ne peut pas la construire en 15 jours. Voilà, non plus. Il y a des fondations, il y a des bases. Le projet du club aussi, aujourd'hui, il est aussi bien identifié chez les garçons que chez les filles, puisqu'on a le bonheur aussi d'être en quart de finale de Coupe de France féminine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un projet quand même assez global. On essaye d'amener le plus loin possible. On va certainement, en tout cas, on est dans les clous pour monter en 19 nationales filles. Aussi, donc voilà, on est sur un projet club global qu'on essaye de mener, mais voilà, ça a pris du temps, comme tu viens de le dire. C'est pas, voilà, on n'a pas claqué des doigts, on a la volonté de faire les choses, mais il faut, voilà, étape par étape, chaque année on essaye d'avancer d'un pas sur des choses qui structurent un peu plus, et puis voilà, et puis, mais on a cette possibilité de le faire. On a des dirigeants qui acceptent de
qui vous laissent le temps, quoi, de travailler. Bon, bah, en tout cas, tous les feux sont ouverts, c'est magnifique,
ouais.
Ah, c'est les feux sont ouverts après.
Alors méfiance.
Voilà, la saison elle va vite.
Tu sais, Thomas, je dis souvent aux joueurs, et tu le sais, les totems d'humidité ou les saisons, c'est pas parce qu'on a réussi une saison que derrière, voilà, on est remis en question dans le sport et dans le foot. Surtout, on est remis en question chaque année. Une année à une autre, ça peut basculer d'un mauvais côté. Donc voilà, c'est très fragile. Et notre rôle, c'est de veiller à ce que cette fragilité, elle vienne pas, voilà, qu'il n'y ait pas des grains de sable qui viennent se mettre au milieu.
Bah, surtout qu'entre une saison moyenne, une très bonne saison, souvent ça se joue à un ou deux matchs clés, une ou deux victoires qui font basculer un groupe. Voilà, donc on sait que c'est toujours fragile et de toute façon c'est remis en cause tous les week-ends. Tous les week-ends on redistribue les cartes et le fait de faire une super saison, des fois ça se joue à rien. Mais comme souvent je dis, dans la vie il n'y a jamais de hasard. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez travaillé pour et que vous le méritez, quoi.
C'est de continuer sur la même
pérenniser,
c'est ça qui est excitant.
Moi, j'ai une question perso. On le sait, moi je le sais. À la fin de l'année dernière, tu t'es interrogé quand même sur un départ du club, puisque tu as été en contact avec quand même de gros clubs pour cette saison. C'est un choix familial, c'est un choix. Comment t'as.
Humidité, parce qu'il en faut pour réussir aussi, c'est important. Disons que j'ai eu la chance de côtoyer un peu tous les niveaux, que ce soit la Ligue 1 avec Dijon, que ce soit la Ligue 2 avec 7, avec d'autres clubs, et le National beaucoup, avec Bourget, avec pas mal de clubs, si on prend mon parcours. aujourd'hui, j'ai commencé très jeune, donc j'ai pu me permettre de bouger assez souvent. Aujourd'hui, j'arrive à un âge où on est posé avec sa famille. Aujourd'hui, simplement, je me suis posé des questions parce que les projets que j'ai eu en face de moi m'ont pas donné les garanties de pouvoir travailler sereinement, de pouvoir travailler dans des conditions correctes pour pouvoir mener à bien les projets. J'ai préféré pas y aller. Voilà, aujourd'hui, j'ai besoin, si je dois partir du puits, c'est pour un projet qui m'apporte des garanties de pouvoir travailler en moins, comme le disait Thomas, avec un cycle qui me permettent de construire des choses. Voilà, si c'est pour être jugé au bout de 6 mois, et voilà, ça sert à rien, je préfère rester là où je suis, même si c'est du N2, même si c'est du N1. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est toujours intéressé pour évoluer au plus haut niveau. C'est comme tout le monde, voilà, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Et c'est vrai que cet été, il y a eu des sollicitations, mais j'avais pas les garanties de pouvoir mener à bien le projet, donc j'ai préféré ne pas y aller.
Oui, c'est Roland qui reprend la parole un petit peu plus terre à terre. Le Puy n'est pas une capitale, on le sait, c'est pas une grande ville. Au niveau public, vous arrivez à fédérer un petit peu toute la région. Comment ça se passe? Expliquez-moi un peu.
On a eu du mal. Moi, ça fait bientôt 6 ans que je suis là. Les 4 premières années, c'était compliqué. Déjà, la première montée, on avait un stade en travaux, on n'avait pas de tribune. Donc on était un peu à l'étroit, on a eu du mal à fédérer du monde. La montée nationale, pareil, on était toujours en travaux.
Et ouais.
Donc les 2-3 premières années, c'était compliqué. Moi, j'ai vécu des matchs au jour de la montée de N2 en N1 à 200-300 personnes.
Ah ouais, c'est pas beaucoup.
Mais là, depuis 2 ans, on sent qu'il y a un potentiel public, puisque le club était quand même en 89, je crois, c'était en deuxième division.
Ouais.
Le stade était plein. Donc, il y a un vrai potentiel. Pendant longtemps, il y a eu un trou footballistique. Donc du coup, les gens... Et là, tout doucement, depuis 2 ans, et surtout cette année, avec la qualité du jeu, que vous avez pu le dire, c'est vrai que c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. Et cette année, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On est plus entre 800 et 1000 personnes. Et ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Et on sent qu'il y a un engouement autour de cette équipe qui se crée. Mais même déjà l'année dernière, c'était déjà un peu le cas, même en national. On avait envoyé un peu plus de monde au club, et là cette année c'est vraiment, vraiment le cas. Il y a quelque chose qui s'est créé et ça commence à être vraiment intéressant.
Les gens ont l'impression que le public s'identifie à cette équipe, qui a du cœur ici. Ils s'y reconnaissent, est-ce que c'est comme ça qu'en fait le public vient, quand ils se reconnaissent dans une équipe et que par leur investissement et tout ça, et c'est ce qui va créer cet engouement. Puis la Coupe de France a aussi aidé, hein, de toute façon.
Oui, non, c'est un truc, bien sûr. La Coupe de France a aidé, mais je sens même en championnat qu'on a quand même pas mal de monde maintenant sur nos matchs de championnat. Alors après, c'est pas du tout équivalent à ce qu'on vit en Coupe de France, on est d'accord, mais on sent bien qu'il y a quand même du monde qui suit cette équipe. On a même des fois une voiture de 3-4 personnes qui sont à l'extérieur, ce qui n'existait pas avant. Voilà, donc il se passe des choses, et plutôt positives pour le club. Et ça, c'est super intéressant, même autour des filles. On sent qu'il y a un engouement. Là, hier, on a ouvert la billetterie pour la tribune pour les filles. En 2 heures, il n'y avait plus de place. Voilà. Alors oui, c'est Paris Saint-Germain, certes, mais en tout cas, on sent qu'il y a un vrai potentiel public, un vrai engouement pour le club du Puy Foot cette année.
Ben, félicitations en tout cas.
Ouais, moi aussi, on va te laisser, Olivier, on va suivre avec attention. Et on essaiera de se reconnecter après, peut-être le quart de finale, si tu es aussi dispo. Quel que soit le résultat, qu'on voit un peu l'avancée en championnat et qu'on suive ici le parcours jusqu'à la fin de la saison. Moi, ça m'intéresse de vous accompagner dans votre année footballistique. Donc,
c'est gentil.
Mais je t'en prie. Donc...
Merci de mettre en lumière le club. C'est super sympa. C'était pas obligé, en tout cas merci de votre invitation.
Eh ben, on t'en prie, puis merci beaucoup.
Ben, au plaisir.
Merci.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Allez, on se retrouve sur Fly FM avec deuxième invité, c'est Pascal Rousseau, l'ancien gardien passé par Rennes, entre autres Laval, l'Olympique de Marseille. Tu es resté. Merci, ouais. Ouais, tu es resté, même si t'as pas énormément joué à Marseille, tu es resté
À Marseille, je suis arrivé pour une mission spéciale.
Ouais.
C'était quatre mois pour remplacer mon copain Gaëtan
Ruard. Ouais, qui était grand blessé.
Guéguette.
Et voilà, il guéguette. Et puis on m'a dit, bah, je pense à l'aider la chose suivante, je t'aide après, tu viens tous 4 mois. Et donc, moi, j'ai fait tous les matchs. J'ai dû en faire une quinzaine. Ouais. Et puis, j'avais pas beaucoup la coupe de rentrée. J'étais pas inscrit, c'était Jean Castaneda qui jouait.
Ouais.
Ah, Janon.
Et puis, donc, comme je dis souvent aux gens qui me taquinent, c'est assez drôle, et je dis, moi je suis arrivé à Marseille, ils étaient deuxièmes, je crois qu'ils étaient premiers.
Ouais, c'est vrai. C'était, t'es arrivé pendant la fameuse période de la main de Bata contre Benfica, cette année-là.
Ah oui.
Moi j'étais pas au match retour. Je l'avais fait à la télé avec des Marseillais, quoi.
Ouais.
C'était vraiment c'était compliqué. Puis j'ai vécu ça en direct, quoi.
Et ouais, tu l'as vu à la télé, toi. Ouais. Thomas, c'est pas.
Ouais, c'était qui l'entraîneur quand tu étais à Laval?
Alors c'était Michel Le Millénaire.
Ah oui.
Si tu veux, moi je suis arrivé à Laval, j'étais à Lille avant. J'avais fait une année à Lille où c'était les tout débuts de Bernard Lama. Et puis malheureusement, bah, on m'avait pas vendu le truc comme il fallait, parce qu'au départ on devait être sur un pied d'égalité, puis ça n'a pas été le cas du tout, puisque Bernard, qui est un excellent gardien, bien évidemment, mais qui débutait, était le protégé du directeur sportif de l'époque, Charlie Samois. Et oui. Puis bah, moi j'ai joué que sur la fin de saison quand il s'est cassé la mâchoire. Et puis après, bah, Mimi. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mimi cherchait quelqu'un pour aider le club. Il y avait Jean-Michel Godard, qui était le gardien,
ouais.
Je
ne
sais pas Gossemont. Et puis, j'ai débarqué là, j'ai signé 3 ans. Et puis, franchement, c'était cool.
C'est un club agréable, une ville agréable à vivre. Moi, je sais que... j'y ai passé de super moments là-bas et comme je le dis, ma fille est née à Laval, j'ai plein de bons souvenirs là-bas et j'y retourne à chaque fois avec grand plaisir, quoi.
Alors oui, je suis assez d'accord avec toi, j'ai pour habitude de jamais cracher sur les gens qui m'ont fait travailler et puis qui quels que soient les rapports que j'ai eu avec eux, parce que moi ça a très bien commencé, ça a mal fini. Mais pour des raisons, on va dire, qui étaient particulières, les gens ne comprenaient pas la démarche qu'on avait eue, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'était incroyable, quoi. Mimi était un monsieur incroyable,
ouais,
qui faisait, qui avait des résultats incroyables, qui arrivait à fédérer des mecs qui tiraient le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, et puis la ville était... ouais, les gens étaient cool, quoi. Moi, j'habitais à 15 km de Laval. J'y retourne pas souvent, mais bon, j'ai fait quasiment 5 ans à Rennes, où là, vraiment, c'est une ville vraiment qui me tient à cœur aussi. Mais le stade Lavalois, c'était génial, quoi. Ça m'a permis de découvrir plein de choses, de jouer, créer mes maillots, de faire plein de trucs, quoi.
Ouais, c'était une personnalité, hein. C'est
Michel, ouais.
Vraiment... moi, pour l'avoir rencontré, quand il était dans une pièce, on sentait sa présence, quoi. Il avait vraiment une façon de faire, un charisme, qui vraiment, à chaque fois, il arrivait à tirer le meilleur d'un groupe. Et quand nous, on a été un petit peu en difficulté, ou le club a été un peu en difficulté pendant un moment, tout de suite, on a fait appel à lui, quoi. Parce qu'il arrive à
fédérer.
À fédérer. Ouais. Et il a un côté rassurant où il a, par ses victoires, parce qu'il a fait. Et c'est vrai qu'il a réussi à reconstruire un club. Et s'ils en sont là maintenant à pouvoir jouer en Coupe de France, à pouvoir rêver d'une Ligue 1, c'est aussi parce qu'il a été là et présent tout au long de sa vie, quoi.
Oui, puis tu sais, il y a des choses que les gens oublient. c'est que à Laval, ça a été toute sa vie, puis à un moment donné, il a fait un crochet par le Stade Rennais. Et moi, j'étais au Stade Rennais quand il est arrivé, ouais. Puisque moi, je suis arrivé au Stade Rennais par via Didier Noto. Mm-hmm. Et puis quand Didier s'est fait remplacer en cours de saison, c'est Mimi qui est venu. Et pour le challenge, il était simple, c'était de monter en D1. On est monté en D1 grâce aux joueurs et à Mimi. Et ils sont plus jamais redescendus.
Ah, ils sont restés, oui.
Ah, ouais. L'année d'après, on s'est maintenu parce qu'on nous appelait l'ascenseur, le yo-yo, hein, Stade Rennais qui descend. Et ils sont plus jamais redescendus. Et j'en ai rediscuté dernièrement avec le président et Cyril Delgouache. Parce que je suis retourné à Rennes, ça faisait 25 ans que je n'y étais pas allé, au Stade Rennais, et ils m'ont dit, mais les gens n'oublient jamais cette équipe qui est montée et après qui s'est maintenue, parce que depuis on n'est jamais redescendu.
Ouais,
et c'est une idée aussi qui a participé à ça.
Non mais ouais, Laval à Rennes, c'est des clubs amis, hein, ils sont de la même famille, je veux dire, ils ont toujours eu des connexions importantes.
Et puis c'est surtout des publics différents, mais c'est des publics de foot.
Ouais,
et ça, c'est bien.
Ouais. Alors, je te reprends après, on va faire une petite coupure pub d'ici 10 secondes. On reste à l'antenne et on prend l'antenne après une petite pub.
Allez, à tout à l'heure.
Mais maintenant, je suis paysagiste. J'ai monté ma société de paysage. Ouais, je m'en régale. C'est ma deuxième passion, on va dire. Et je relis des livres et tout ça, enfin des trucs de fou, quoi. C'est vraiment, je me régale de ça, quoi.
Ben, c'est cool parce que on a discuté un petit peu avec JB, mais moi j'ai une histoire un peu particulière. J'ai eu un gros accident il y a 5 ans et j'ai perdu toute ma mémoire. De ma naissance jusqu'à mars 2019, donc j'ai dû réapprendre plein de choses, et puis aujourd'hui ça va mieux, mais je veux dire, comme je te disais au téléphone, les réseaux sociaux m'ont permis de... J'étais incroyablement surpris de la chaleur des gens qui m'ont recontacté pour me dire, mais on va vous expliquer qui vous étiez, ça c'est incroyable, franchement. Et c'est clair que le foot, je m'aperçois que on avait une autre approche, quoi. Peut-être ta génération aussi, aujourd'hui c'est un peu différent, mais on était vraiment, c'était différent. On était vraiment des équipes, tu vois,
oui,
on
s'entendait pas avec tout le monde. C'est normal, mais c'était des histoires d'hommes, moi je trouve.
Ouais, c'est ça.
C'était ça qui me touchait le plus. C'était vraiment des histoires d'hommes. Alors que là, j'ai l'impression que le foot, ça fait de plus en plus. Enfin, 1 plus 1 plus 1. C'est une accumulation de qualité, de joueurs, d'hommes. Mais il n'y a plus vraiment les histoires. Bon, maintenant, il y a des histoires qui. Je regarde, là, par exemple, la Côte d'Ivoire. Là, je pense qu'ils ont créé quelque chose. Ils ont réussi à faire là une histoire d'hommes, quoi. Et. Et même les mecs, ils parlent de Gassé, que en bien, sauf que pendant un moment, ça n'a pas bien tourné pour lui, mais ils ne l'oublient pas et lui en veulent en rien.
Parce qu'il a fait partie de la machine, et, tu vois.
Mais c'est une histoire d'homme.
Intelligent pour partir, pour dire, il faut que je parte.
Et en plus, il ne s'est pas trompé dans ses choix, vu qu'ils arrivent en finale.
Bah, c'est ça, tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai gardé très, très peu d'amis dans le foot. Hein, vraiment, mes potes, c'est Franck Leboeuf, parce que il a vécu chez moi quand il est arrivé à Laval. On est vraiment plus que des potes, quoi. Et Olivier Dalloglio, des gens comme ça. Et je sais que Franck, je l'ai revu il y a 3 semaines à Paris. Il fait une nouvelle pièce de théâtre. Et puis moi, j'écris aussi un truc sur ce qui est arrivé. Mais on est toujours potes, parce que d'abord, on est des potes.
Non, mais de toute façon,
avant d'être des footballeurs.
Voilà, on est des hommes avant. Et de toute façon, souvent, il faut. Avant de devenir un autre joueur, il faut déjà devenir un autre homme. Et à partir de ce moment-là, souvent, les gens, ils l'oublient, ça. Que derrière le joueur, il y a un homme, il y a une personnalité. Et bon, c'est vrai que maintenant, c'est différent. C'est différent.
C'est du business.
Et tu peux plus, si tu veux. Moi, j'ai quitté le domaine du foot parce que, déjà, je voulais faire autre chose.
Puis je m'éclate aussi depuis 20 ans dans ce que je fais.
Et vous faites quoi?
J'ai eu la chance de jouer. J'ai eu la chance de jouer jusqu'à 40 ans, tu vois, dans les buts.
Les goals, c'est super.
Oui, mais même goal, il faut quand même garder.
Ah, ouais, non.
Il faut garder ouais. Quand même.
Il faut y aller au sol.
Ah, oui.
Hygiène, parce que même la D1 ou la D2 Suisse, ça joue au foot.
Ah ouais, ouais, non. Mais... Et maintenant tu fais quoi?
Ah moi je suis planificateur financier chez Swiss Life. Je m'occupe de retraite, je m'occupe d'entreprise.
Ah ouais, carrément, dans la finance, quoi.
Mais surtout dans la planification de personnes.
D'accord.
Je rencontre beaucoup d'humains.
Tu avais créé ta propre marque de maillot de gardien, il me semble, à un moment.
Ouais, c'était à la balle, si tu veux. J'aimais pas le maillot jaune, le short noir et les chaussettes rouges. Et puis un jour, j'avais rencontré un monsieur qui avait un magasin de sport à la balle, donc je me souviens plus du nom. Je lui avais dit, je peux pas me faire du maillot pour moi, juste pour rigoler. Bah, il dit, bah ouais, puis bah, on l'avait fabriqué, je ne sais plus, quelque chose comme une trentaine de tenues. Mais des trucs. J'étais connu pour être un peu.
Ouais, ça me fait plus.
On voit les photos d'ailleurs.
Mais je faisais ça que pour moi, c'est-à-dire j'avais une tenue, puis je choisissais à chaque match la tenue que je mettais, mais c'était juste pour moi, quoi.
Ouais,
le club m'avait dit, tu mets l'actel, et puis c'est bon, quoi, et puis on y va, quoi. Et puis ça a pris un engouement à Laval, les minots sont venus me voir, ah, monsieur, on peut aller voir, on met le maillot ou ça, machin, mais il n'y a pas, moi j'en ai qu'un. Donc voilà. Puis du coup, on en a fabriqué une petite série du fameux maillot qui était rayé dans le dos, là, noir bleu, noir jaune, noir vert, noir blanc. Et puis c'était les débuts de Canal, enfin pas tout à fait, ça faisait 3-4 ans qu'il tournait déjà. Et puis moi, venant de Paris, mes potes, c'est Michel Denisot, Charlie Pietri. Puis quand ils ont su que j'avais fait ça, ils m'avaient fait pour un match, je crois que c'était Monaco, à la maison. Ils étaient venus filmer l'usine, ils avaient un petit reportage. Et ça a pris un engouement, mais de dingue, quoi. Et puis après, les grandes marques se sont dit, tiens, on pourrait peut-être s'intéresser à ce con Rousseau. Et puis, tu vois... Avec les moyens des mes grandes marques, moi je faisais juste ça pour marrer, quoi, tu vois. Puis après les grandes marques sont rentrées dans le système et puis moi j'ai revendu mon concept. Mais voilà, c'était chouette, quoi. Et puis quand je revois les photos, là, mes amis et mes enfants ont été retrouver les photos parce que pour me faire rappeler. Oh mon Dieu, les tenues, j'avais pas peur. La vache.
À l'époque,
je rentrais sur le terrain.
Mais ça se voit sur les
photos. Je me souviens que mon premier match à Marseille, je pouvais pas faire ce que je voulais, tu vois, parce que c'était Adidas, machin. Mais je suis quand même rentré à Marseille, j'ai fait un match, j'étais rose de la tête aux pieds. Rose, tu vois. Et il paraît qu'à Laval, c'était devenu un jeu, quoi. Les gens étaient morts de rire.
C'est beau, c'est une belle aventure en tout cas.
Oui, c'est comme Fabien Barthez où les gens lui disent souvent, putain, c'est toi qui as fait les manches relevées, machin, et puis il leur dit souvent, non les mecs, manches relevées, ça existait avec le vieux Larousse, il faisait ça dans les années 80, et il jouait avec les manches relevées, parce que je détestais les manches, d'avoir les manches longues. Voilà, ça fait partie de l'histoire, c'est marrant.
Bah c'est bien, d'avoir écrit l'histoire, c'est déjà c'est beau.
Bon, on a écrit la note déjà.
On fait ce qu'on peut surtout.
Ouais, tu vois, toutes nos histoires, elles sont chouettes, la tienne, la mienne, celle de JP, et c'est ça qu'on oublie aujourd'hui, les gens nous parlent de carrière, je dis mais oui, mais moi vous voyez, j'ai arrêté en 2002, les copains, vous êtes gentils, quoi. J'ai une autre vie à côté.
Et ouais, bien sûr.
Je ne connais rien du tout, mais par contre, je peux plus, moi, ces émissions, comme je disais à JP, Canal Football Club, où ils font des théories, l'équipe du soir, les machins, c'est infernal. On me téléphone souvent. Donc j'intervienne parce que je pense que j'ai un recul particulier avec en plus ce qui m'est arrivé. Et puis j'ai vraiment un recul particulier sur le foot. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les gardiens, c'est les humains.
Ouais, c'est l'être humain. Joueurs.
Ouais. Ouais, c'est pas. Et c'est pour ça que je te dis oui, avec plaisir. Parce que je me fous de l'audience, du machin, du ouais, truc. Si toi, ça te fait plaisir, c'est. Eh ben, merci beaucoup, c'est chouette. Mais on parle de foot, on parle de vie, quoi.
En plus, ça permet qu'on se rencontre. C'est magnifique.
Ben voilà, c'est ça. Tu vois, des générations différentes. Moi, je suis retourné à Rennes. C'est le seul club qui a créé ce qu'ils appellent un salon des légendes. Mmh. Où tous les joueurs qui ont joué au Stade Rennais, peu importe combien de temps, ont accès permanent au match.
Ouais, ils ont un devoir de mémoire, ils oublient pas toutes les personnes qui ont donné au club, parce qu'on en donne, hein, de la sueur, du sang, des larmes, on a donné énormément.
Moi qui n'y étais pas retourné depuis 25 ans, c'est impressionnant. J'ai pas fait de pub, j'ai rien fait du tout. Je suis arrivé, je suis un week-end chez mes potes, et puis voilà quoi. Et des supporters ont su que j'étais là, je sais pas comment. Ils m'ont téléphoné, je sais pas comment, parce que vous voyez, sur les réseaux, il y a mon téléphone, je crois que c'est ouvert. Et ils m'ont dit, on t'invite à manger. Donc je me suis retrouvé en haut de la rue de la Soif à Rennes. Et on a fait toute une journée. Le lendemain, le match était Rennes-Nantes. Moi, j'étais en tribune avec les vieux, quoi. Tu vois, il y avait un mec de, je sais plus, 80 ans, un autre qu'on avait 32, enfin, c'était génial, quoi. J'ai revu Loïc Lambert et tout, on a bien rigolé. Et à un moment donné, le cop, derrière le but, un gros cop, il scande ton nom.
Ouais, c'est beau. Et ça doit faire quelque chose quand même.
Non, mais moi je me dis, mais ça sort d'où? Parce que moi, à Rennes, c'est 95, quoi, 94. Et après le match, j'ai pu discuter avec les gens du club. Mm-hmm. Et ils m'ont dit, on a su que t'étais là. Et c'est normal. Ils me disent, comment on le fait pour quand il y a un autre joueur qui vient et qui a mouillé le maillot pour le club. Et ça a été stoppé, le PSG, machin.
Oh non.
Marseille, ça
y est. Mais c'est beau, ça a dû donner un char de poule, non quand,
Ouais, mais c'est comme à l'OM. Tu sais, l'autre fois, je vais au Vélodrome avec mon fils qui est malade mental de l'OM, comme moi, parisien,
ouais,
parisien qui a joué que 4 mois. Mais moi, les copains, vous ne me parlez pas d'autre chose que de l'OM, quoi.
Mmh. Ah,
et on arrive au Spark, à Milo, au parking, qui contrôle mon accès, et me dit bonjour, monsieur Rousseau.
Ah bon?
J'ai dit, attends,
j'ai un peu changé. Non, justement, c'est ça, t'as pas changé, c'est pour ça.
Et puis, j'ai dit, mais toi, t'étais même pas né quand je jouais.
C'est vrai.
Malade mental du foot, on a su que vous étiez là, on savait le numéro de la voiture, on dit, mais c'est le et c'est ça qui est beau, tu vois, ouais. C'était pas d'aller dans le salon VIP et d'avoir ta tronche sur l'écran pendant le match. J'en ai rien à foutre de ça, quoi. Tu vois, c'est les gens, quoi, c'est ça qui est incroyable, quoi.
Bah, c'est ce qui
moi,
fait
vivre le foot.
Ouais, et puis tiens, que tu me parles de Marseille, on va parler d'un truc technique. Puisque tu suis l'OM là actuellement, je pense, cette saison aussi.
Oui,
et
bien sûr.
Aujourd'hui, pour toi, où vont les dirigeants? Quelle est la stratégie sportive du club? Parce qu'on ne comprend rien. Il y a un mec qui arrive au mois de à latéral gauche au mois d'août, il part au mois de décembre.
Je vais pas faire de l'analyse à deux balles, hein, c'est pas mon style. Après, c'est. Il faut être conscient dans la vie que Marseille, c'est un club à part.
À part, ouais,
j'allais le dire.
Non, mais c'est important de dire ça, parce que souvent, on dit ça et les gens se marrent. Mais j'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas joué là-bas. En dehors de qui est le président, c'est un micro-phénomène.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est même pas une région, c'est une ville. Marseille, c'est une ville. Et c'est... pas aussi simple que nommer un président, un entraîneur, un staff, ouais. Machin. Il y a deux groupes de supporters qui ont une puissance.
Ah oui, ouais, phénoménal, oui.
Winner et...
À mon avis, trop importante. Mm. parce que je reste persuadé qu'ils sont extraordinaires, mais qu'à un moment donné, faut avoir la capacité de pouvoir rester à sa place. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils aient une autonomie financière qui puisse leur permettre de vivre de leur passion et de générer de l'argent aussi pour le club. C'est très bien. Mais quand on arrive à avoir des choses qui sortent dans les journaux, ouais. Et ça ne sort jamais par hasard, comme ce qui s'est passé à la commanderie, ou pendant les réunions avec les groupes de supporters. Moi, ça m'interpelle, mais il n'y a qu'à Marseille qu'on a ça. Tu vois, de temps en temps, j'ai José Anigo par message. On se suit. On épaule parce qu'à un moment donné, je joue en double aussi, tu vois, puis on se connaît bien. Et il me dit, ouais, tu sais, c'est compliqué. Et lui, il est vraiment intérieur, tu vois. Il a été dirigeant, il a été joueur.
Entraîneur.
Donc Marseille, je pense que peu importe qui tu mets, ça sera toujours les mêmes problématiques. Parce qu'à un moment donné, il n'y a que les résultats pour les gens de l'extérieur. Les supporters, tes premiers, tes deuxièmes, tu gagnes quelque chose, il ne se passera jamais rien. Mais aujourd'hui, tu n'es pas premier, tu es sixième du championnat, tu as un mec, je ne connais pas Gattuso, hein, honnêtement, je vois juste que le mec, on le parachute, on lui dit c'est effectif, c'est celui-là, il fait ce qu'il peut, il fait son truc, ça a l'air d'être pas trop mal, mais bah, pas assez pour les Marseillais, si tu veux. Et c'est vrai que bah, voilà, tu achètes un mec, mais je dirais que c'est le foot, hein, tu achètes un mec en juillet, dans quelles conditions tu l'achètes, qui a décidé de le prendre? Moi, j'en sais rien. Aujourd'hui, je sais pas si vous maîtrisez ces trucs. C'était Olivier Dalloglio qui m'avait expliqué ça. Maintenant, tous les joueurs sont sur Teledata. Donc, ça veut dire que tu t'entraînes à l'entraînement. Tu as un machin là.
GPS.
Toutes tes performances d'entraînement sont analysées. Et toutes tes performances de match sont analysées en Teledata. Ouais. Ce qui veut dire que quand tu es à Dijon, par exemple, puis t'es entraîneur de Dijon, puis tu cherches un latéral gauche avec ce tel format, salaire, machin et tout, tu rentres comme
une base
informatique.
Ouais, c'est une base de données, ouais.
Et puis t'as une base de données, tu peux suivre les vidéos, les machins. C'est hallucinant. Et t'as des clubs, ils recrutent comme ça.
On ne fait plus attention à l'humain.
Les agents, contre-agents, les machins, les trucs. Moi, j'ai jamais eu d'agent. Parce que j'avais une tête suffisamment intelligente, je pense. Et puis, quand j'avais un problème, je prenais un avocat.
Ouais, voilà, pour lire les contrats.
Et je le payais. Voilà, je le payais, c'était fini. Ouais. Et aujourd'hui, que Mbappé, par exemple, et via son avocat, 17 personnes qui travaillent pour lui, ça, c'est normal.
C'est une société, c'est une entreprise.
Tu joues à Laval en D2, que tu joues à Châteauroux en National et que tu vois débarquer des mecs qui ont des agents. Maintenant, tu as des jeunes, ils ont 12 ans, ils ont des agents. Donc, tu vois, c'est tout. Et Marseille, bah, mettons un Marseillais à Marseille et puis après, peut-être ça marche pas.
Et oui.
Je sais pas, j'en sais rien, mais mettons, pourquoi Tapi, qui n'a pas fait que des bons résultats à Marseille, hein, on n'a pas toujours gagné. Mais personne ne faisait chier, quoi. Il n'avait pas tous ces problèmes. Hein. Honnêtement, moi j'ai pas le souvenir qu'il avait tous ces problèmes. Le foot était peut-être différent, mais.
L'humain était différent surtout. L'humain était différent.
Ah bah oui, ça c'est la base.
C'est pour ça. Oui.
Aujourd'hui on parle que de pognon,
il y avait d'autres rapports, mais.
Avant de parler de football, si tu veux, là on parle de football. Bah.
Ouais, mais tiens,
moi je veux bien parler des heures de football, mais football, c'est d'abord des mecs, des nanas qui jouent au foot, des gamins. Et avant de penser est-ce que je vais réussir, déjà je joue, quoi, éclate-toi, quoi.
La notion de plaisir, des fois, elle disparaît, ce qui enlève toutes les émotions de toutes les bonnes émotions que le foot doit nous faire ressentir à chaque fois qu'on joue, quoi. Souvent quand je coach, je leur dis, mais vous verrez que l'arrivée, c'est pas le plus important, c'est pas la fin, c'est le trajet qu'on va passer ensemble, c'est tout ce qu'on va vivre, le haut, le bas, les victoires, les défaites, les moments durs. C'est ça qui donne de la valeur au foot, quoi. Ce qui donne envie parce qu'au foot, on a vraiment des émotions qui transcendent. Il y a très peu de moments dans la vie qui nous donnent autant d'émotions, quoi.
Tu vois, aujourd'hui, on parle de Mbappé. Bon, là, on en parle moins, ça va arriver, là, parce qu'il va annoncer quelque chose. Ouais. Mais, entre guillemets, on s'en fout, quoi. Ouais. Tu vas aller au Real ? Bah, au Real. Tu vas aller au PSG ? Et on n'a pas été capable de faire que contractuellement tu puisses rester. Bah, t'es libre, bah, tu vas où tu veux. Tu continues d'être bon, tu t'éclates, et puis quand tu joues avec l'équipe de France, bah, tu t'en sors d'être bon aussi. Quoi. C'est la vie. Oui, Zidane, quand il est parti de Bordeaux pour aller à la Juve et après au Real, personne qui n'a pas fait des kilomètres. Hein. Mm-hmm. Ouais. Et puis le Paris Saint-Germain survivra à Mbappé.
L'institution elle restera de toute façon. Mais ça sera une autre page qui va s'écrire, et puis bah, c'est pas... C'est pas grave, et de toute façon, je pense que même pour lui ou pour le PSG, faut passer à autre chose. Le club ne tient pas à une personne.
Peut-être il va faire un contre-pied monumental et il va dire je reste.
Ouais, c'est arrivé.
C'est un film.
Ça fait 2 ans.
C'est possible, tu vois, mais c'est tout ça qui me fatigue. Parce que tu vois, autour de ce que moi j'appelle un épiphénomène, ça va faire toutes les émissions de télé, toutes les émissions de radio, pendant des jours et des jours, on va bouffer de ça, on va débattre sur est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester, après on va débattre sur pourquoi il est parti, qu'est-ce qu'il va faire au Real alors que la saison PSG n'est même pas finie. Tout ça, ça peut...
Pascal, je suis Roland, je ne sais pas, tu me vois. Excuse-moi, je t'ai coupé. Roland, je suis, bonjour, je suis directeur des programmes de Fly FM, enchanté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors moi j'ai une petite question à te poser. Tu fais 1m80 toi, je crois, à peu près. Tu vois que ouais, c'est ça. On tente. Alors, maintenant, c'est une question de bassement technique. Les gardiens de 1m80, on ne les veut plus.
Alors ça, c'est ce qu'on dit dans le journal.
Moi, c'est ce qu'on m'a dit.
Ça, c'est ce qu'on dit dans le journal, et c'est ce qu'on dit aussi dans les staffs techniques.
Voilà.
Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai rencontré un type qui maintenant est un peu plus connu qu'à l'époque, il n'y était pas du tout, qui s'appelait Thierry Barnora.
Oui, bien sûr.
Et Thierry Barnora, quand je suis arrivé, alors que ça faisait 21 ans que j'étais pro, il m'a dit, t'as rien compris. Et lui, il était stopper, hein, à un petit niveau. Ouais. Et donc, à Carouge, il m'a expliqué des choses tout à fait simples que maintenant tout le monde explique, hein. Reste debout, tant qu'il n'a pas tiré, plonge pas, tu vois, des conneries, mais des basiques.
Ouais.
Vitesse au sol, effacement de la jambe, enfin, tu vois. Ouais. Et un gardien de but, il peut faire 1m70 comme il peut faire 2m, s'il ne reste pas debout, avant que le joueur fasse quelque chose. S'il ne sait pas se situer dans son but, si avant qu'un coup franc ou un corner soit tiré, il est déjà parti, il n'aura jamais le ballon.
D'accord.
Donc, pour moi, c'est des faux problèmes, tout ça. Tu vois, parce que tu as un mec comme Thibaut Courtois qui est un phénomène, qui fait presque 2 mètres.
Et oui.
T'as un type comme Brice Samba qui fait 1m80. 3, 4,
ouais, c'est bien,
quoi, un truc comme ça, je crois. Et Brice Samba, t'as vu le dernier match?
Ah oui, fantastique.
Donc, pour moi, ça n'a pas de sens, ça.
Ah, tant mieux.
T'arrives en jeune,
Ouais.
Alors attends, faut que je me remette au terme français. Nous on disait poussin, maintenant c'est U quelque chose.
Ouais. Poussin c'est U8, je crois.
Neuf,
ouais,
huit, un neuf. Tout petit minot, quoi, disons.
Ouais, ouais.
Et puis, on t'apprend les bases, mais en fin de compte, tu vas, ouais, pas dans les buts, t'es pas mal, mais si d'un seul coup on te dit tu vas pas faire plus d'1m80, t'arrêtes.
Ah mais c'est ce qui dit, c'est ce qui
ça,
se dit
ça
maintenant.
Sent doux, ça.
C'est ce
ça
qui se dit.
Doux, ça.
Moi, j'ai des preuves qu'il y a des gosses qui ont été empêchés presque de faire une carrière parce que, justement, on les a rejetés des centres de formation, etc., par rapport à leur taille. J'ai des...
Moi, j'arrive pas à comprendre ça.
J'ai des communes.
Je voyais à Rennes, c'est Steve.
Ouais. Oui, Steve, oui.
On pourrait en parler de ça, tiens, ça aussi, à l'occasion.
Ouais, on te réinvitera, t'inquiète.
Du départ de Steve.
Ouais, de Marseille.
Ouais, ouais, ouais. Quelle honte.
Ça, on pourrait en discuter.
Ouais, ouais.
Mais Steve, à Rennes, Steve, il n'est pas immense, hein.
Non, comme...
Il est imposant, mais il n'est pas immense.
Non, non.
Ah, il y a une carrure.
Le gardien qui joue la coupe, Gallo.
Gauthier, ouais. Gauthier Gallo, ouais.
Gauthier Gallo,
ouais.
Il est plus grand.
Ouais, il est plus grand, lui. Ouais, il est plus grand.
Il est plus grand, mais je veux dire, ils sont bons les deux. Jérémy, tu as Jérémy Jeannot.
Mmh. Oui.
Bah ça, oui, je pense que ça, ce phénomène-là, ça ne peut plus exister.
Mmh. Oui, c'est possible.
Groupe étourdi, Jean-Luc.
Jean-Luc, oui. Oh, même le Corse, comment... comment il s'appelle Ah, il joue à l'OM alors. J'ai perdu
Pascal Ometa.
Pascal Ometa, il n'est pas si grand que ça. Hein.
Il est plus grand que moi. Il est plus grand
ah, quand même. Ah, je,
Pascal, il fait 1m82, je crois.
Ah, quand même.
Mais ça, c'est des, pour moi, c'est des faux problèmes. Où tu as raison, c'est les vrais problèmes, c'est comment c'est possible qu'un critère.
C'est ça.
Ça soit plus la qualité, minutes, ça soit la taille.
Exactement.
Ça c'est une réelle question.
Ouais, ouais.
C'est une vraie question.
Ouais, parce qu'on va faire une coupure là, pub, qui est imposée. Par contre, alors on peut. Si tu veux rester avec nous, on va recevoir, on va parler de la Coupe d'Afrique.
Alors chers auditeurs, je pense que vous êtes comme nous, comme on dit chez nous dans le midi, vous vous régalez, hein, les amis sportifs surtout, et footballeurs, parce qu'alors on a des personnes, des personnalités, je dirais même, parce que c'est vraiment des gens qui ont marqué le football, et qui le marquent encore, bien sûr. Alors, JB.
Oui.
Je vais te laisser la parole.
Alors en plus de Pascal qu'on garde pour la suite de l'émission, on vient de recevoir Badara Séné, ancien joueur milieu terrain de Sochaux, de Guingamp entre autres. Ça c'est pour la France. Après, tu es parti aussi à l'étranger. Et cette deuxième partie, on va parler quand même de la CAN, qui est d'actualité, puisque la finale, ça y est annoncée, entre la Côte d'Ivoire, qui est miraculée sur cette CAN pour le moment. Quand même, et le Nigeria qui a fait une très costaud. Enfin, moi j'ai trouvé le Nigeria très costaud. À part le dernier match, ça a été un peu plus compliqué. Mais ouais, le parcours de la Côte d'Ivoire, comme on en parlait tout à l'heure avec Thomas, ça a fait dire quelque chose dans le pays, je pense, au niveau de l'équipe. Mais c'est vraiment des scénarios de fou. Ils s'en sortent à chaque fois de manière incroyable.
Moi, j'ai l'impression que maintenant, même, ça leur a donné une force. Là, on sent un groupe, même un pays. Parce que je disais encore des mots de Gassé. Il a quand même vécu quelque chose de quand même traumatisant. Mais ils ne sont jamais désunis. Je veux dire, ils ont toujours l'amour de ce groupe. Ils ont créé maintenant, ils ont une force. J'ai l'impression qu'ils pourraient renverser n'importe qui. Ils sont devenus presque insubmersibles. Et je trouve que de là, à deux doigts d'être éliminés, ils ont réussi quand même à rester unis derrière dans ce groupe, et c'est franchement vraiment beau, et c'est une belle leçon, je trouve.
Ouais, je sais pas, Badass, toi qui as suivi un peu là, ce que tu en penses de la Côte d'Ivoire. Moi je trouve que, comme tu dis, il y a une force mentale, il y a une résilience dans cette équipe, une résilience à la défaite qui les pousse à arriver en finale là, pour le moment.
Et là, je vous rejoins sur ce que vous venez de dire, parce que là, au face de premier tour, là, tout le monde les a enterrés quand ils ont perdu 4-0 contre la Guinée.
La Guinée, ouais.
Donc, du coup, ils sont remobilisés. Ils ont joué contre le Sénégal. Ils ont dit, donc, ils ont fait un match super correct. Et super bien. Et puis c'est là où qu'est-ce qu'ils se sont dit, si on passe là, on va aller au bout. Et puis là, à la quart de finale, ça a été impeccable. Demi-finale, c'était un petit peu plus dur. Mais là, donc ils sont solides entre eux et puis ils se font toute confiance avec leur entraîneur qui est jeune, à peu près comme eux. Donc tu vois que Côte d'Ivoire peut faire quelque chose. Mais bon, il faut faire attention à Nigeria, hein, parce que c'est du costaud.
Justement,
il faut faire attention.
Alors les pronostics, là, j'aimerais bien un petit peu là, les footballeux là. Thomas d'abord.
Moi je pense, sinon Hervé Liboyer va m'en vouloir. Hein, parce que j'ai la Côte d'Ivoire. Je pense mais ça va risquer de donner un sacré match avec de l'intensité. Ça donne envie de le suivre ce match.
Alors Pascal, on a perdu ?
Moi je pense que. Non, tu n'as pas perdu. Je pense que la Côte d'Ivoire va gagner. Je ne sais pas combien, mais je ne vois pas comment c'est possible qu'ils perdent.
Oui, c'est ça. Ils ont réussi à créer une force et ils peuvent renverser des montagnes, je pense.
N'oubliez pas qu'on est en Côte d'Ivoire. Hein.
En plus. C'est vrai que ça joue légèrement aussi.
Un peu.
Bon, et Badara, alors, lui ?
Oui, mais moi je pense que Nigeria va gagner quand même. Parce que là, on peut tous jouer à l'extérieur maintenant. C'est vrai qu'ils ont les supporters avec eux.
Ah. Voilà.
Et Nigeria, ils sont plus, je pense, après, ça ne veut rien dire, le foot, c'est jamais. Mais Nigeria, ils sont plus complets. Et puis,
Badar, je te coupe 30 secondes. Il y a Nasser qui vient de nous rejoindre, Nasser Largué.
Ah, salut Nasser.
Salut, bonjour à tous.
Bonjour. Alors, Nasser, bon, je ne te présente pas.
Nasser.
Voilà, Pascal Rousseau, vous connaissez, je ne te présente pas. Thomas Minet à côté, je ne sais pas si tu le vois, ancien Labalois, et Badara Séné, ancien Sochalien, entre autres. Donc voilà, on se retrouve tous les quatre.
Bonjour. Très heureux de vous rejoindre, parler football.
Ouais, nous aussi, même si tu n'as pas beaucoup de temps, on va te prendre. On était en train de pronostiquer un petit peu la finale et on a parlé pour le moment que du miracle ivoirien, parce que la compétition, c'est vraiment un miracle, mais ça fait preuve aussi une force de caractère, de résilience de cette équipe. Et le Nigeria qui a eu une phase de poule et des phases d'élimination assez correctes, une équipe très costaud. Donc voilà, chacun faisait un petit pronostic pour la finale. Je ne sais pas si toi tu en as un, comment tu vois cette finale.
C'est une finale pour moi qui est très indécise. C'est vrai que la Côte d'Ivoire joue en chez elle avec beaucoup de circonstances favorables qui arrivent quand même jusqu'au final avec des matchs extrêmement difficiles. Et puis, étant marocain, on a facilité aussi la qualification pour le deuxième
tour
de la Côte d'Ivoire. Mais en toute honnêteté, je suis très heureux de les voir en finale parce que quand on prend un par un les individualités, c'est vrai que la mayonnaise a du mal à prendre collectivement, mais individuellement, il y a des joueurs vraiment très, très costauds, les caissiers, c'est Kofofana et tout ça. Individuellement, c'est des forces de la nature, c'est des très bons joueurs qui ont beaucoup de caractère. Et j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas toujours ensemble, mais l'implication de chacun d'entre eux amène à un moment donné quelque chose d'exceptionnel. On voit le but de Haller qui...
Oui, Sébastien, oui.
Donc voilà, donc je pense que les astres sont alignés pour eux. Donc si on met le facteur chance, je pense qu'ils ont cette chance-là de jouer devant leur public et vouloir vraiment montrer qu'ils ne sont pas là par hasard. Et puis bon, le Nigeria qui a fait son petit parcours, qui a aussi son mot à dire. Mais je vois bien les Ivoiriens remporter cette finale-là.
D'accord.
Il n'y aurait que Bada alors qui pronostiquerait le Nigeria alors.
Ouais. Je suis tout seul,
c'est ça aussi les paris,
qui a la grosse ou quoi,
les Sénégalais aussi, c'est pour ça.
Ouais.
Ils ont sorti les Sénégalais et puis les Marocains les ont aidés pour jouer contre le Sénégal. Donc,
Oh là là, ça c'est la pique.
Après moi je veux revenir, tu l'as pas entendu, sur quelque chose qu'a dit Thomas, le Sénégal qui malgré la démission de Jean-Louis Gasset, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la démission de Jean-Louis Gasset est restée quand même unie autour de son ex-entraîneur, mais le changement et l'arrivée d'Ernest Faé a pu provoquer quelque chose. Qu'est-ce que ça a pu provoquer? Est-ce que c'était inévitable que Jean-Louis Gasset parte en milieu de compétition en fait?
Gasset, ce qu'il a fait pour moi, et les joueurs, ils le disent, quand je vois les déclarations de Fofana et tout ça, ils ont un amour pour Gasset. Il a eu l'intelligence de partir. Ils avaient besoin d'un électrochoc. Et dans tout ce qu'ils disent, de toute façon, ils n'ont aucune animosité. Il y avait besoin d'un petit déclic. Et il a eu l'intelligence de partir et de pour laisser continuer de vivre son groupe parce qu'ils n'en étaient pas loin. Et ça prouve qu'il ne s'est pas trompé. Il a pris les bons joueurs puisqu'ils arrivent en finale. Simplement, ils avaient besoin peut-être d'un petit quelque chose. Et voilà, ils l'ont trouvé. Et lui, il a été capable de ne pas sombrer avec le navire. Et l'institution, le pays avait besoin de peut-être de l'équipe de... d'un déclic, et le fait qu'il soit parti, ben ça montre quand même qu'il n'avait pas envie que le pays coule, quoi. Enfin, que l'équipe coule, quoi.
Une réaction, je sais pas, Pascal, ouais. Badak,
c'est vrai que Jean-Luc Gasset a été vraiment très intelligent dans la mesure où il a pensé groupe, et il sait très bien dans des conditions comme ça, l'entraîneur est le premier fusible. Donc il a sûrement dû se poser la question, et je le connais très bien parce que je l'ai côtoyé à un moment donné.
Ouais,
il a été entraîneur au Stade Malherbe de Caen, on a gardé toujours des bons rapports. C'est quelqu'un qui analyse bien les situations. Il sait très bien que l'entraîneur s'est fusé, et que à ce moment-là, avec une grande équipe comme la Côte d'Ivoire, dans son pays, jouant la Coupe d'Afrique, il s'est posé la question, est-ce que cette équipe-là n'a pas besoin d'un déclic? Et c'est vrai que la qualification, elle était miraculeuse, parce qu'elle aurait très bien pu passer à travers si le Maroc n'avait pas gagné ce match-là qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Ils étaient sortis de cette compétition. Donc, c'est vrai qu'il a eu cette intelligence, et de toute façon, qualifié ou pas qualifié, avec la prestation qu'a faite la Côte d'Ivoire, probablement qu'aujourd'hui aurait été un peu chahuté pour son poste. Et les joueurs le disent, il faut tirer un grand coup de chapeau à Jean-Luc Gasset, parce qu'il s'est sûrement dit que peut-être en se retirant, ça donnait peut-être un nouvel élan à cette équipe-là. Et voilà, donc aujourd'hui elle arrive en finale, et on peut lui tirer notre chapeau à Jean-Luc.
Ouais. C'est pas une réaction, Bada, ou...
Vas-y, Pascal, allez-y.
Non, je trouve que ce que dit Nasser, c'est intéressant, parce qu'on en a parlé avant que tu arrives, Nasser, de ce qu'a fait Jean-Louis, que je connais aussi bien. L'Afrique, c'est particulier, tu vas pas me dire le contraire, Bada. Ouais. Moi, j'ai plein de copains qui ont traîné en Afrique. Moi j'ai pas joué en Afrique, j'ai joué en Arménie, mais c'est la même chose. Si tu veux, tous les entraîneurs qui réussissent en Afrique, qu'ils soient européens ou africains, ils doivent tenir compte des particularités c'est même pas une question d'éducation, c'est une question de c'est comme ça. Il y a des us et coutumes, il y a plein de choses qui font que tu peux être le meilleur sélectionneur du monde en travaillant super bien, peu importe ta nationalité, tu as des composantes avec lesquelles tu vas devoir faire. Et je pense que Jean-Louis, il a fait un excellent travail, mais après, est-ce que c'est la pression parce que c'est en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la pression que subit le groupe, les joueurs, la fédération, je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Le premier match était compliqué, ils ont gagné, mais c'était compliqué. Le deuxième, c'est du Qatar, et dit, je m'en vais. Il a, j'imagine, pas mis 3 heures avant de réfléchir, le connaissant. Et je trouve que c'est tellement important de le mettre en valeur, ça. Les joueurs font ce qu'il faut parce qu'ils sont sur le terrain et on ne peut rien faire d'autre. Merci à eux. Mais c'est important de comprendre que s'ils gagnent, et même s'ils ne gagnent pas, parce que je pense que ça va les aider pour la suite, ce monsieur, il aura joué un rôle important. Et ça, faut vraiment en être conscient. Oui, je partage. Il faut souvent les entraîneurs, on leur tape dessus. Et c'est vrai que l'attitude à Jean-Louis, qui avait peut-être tout à perdre aussi, tout à gagner, parce qu'aujourd'hui, il est en finale, qui laisse sa place pour son second. Dans l'intérêt général d'une équipe, c'est,
c'est rare. C'est rare, il faut le souligner. Puis s'il y a vraiment une victoire finale, déjà, il y a une grande victoire, c'est qu'elle est en finale, cette équipe-là, dans son pays, dans cette Coupe d'Afrique. Donc, il est gagnant, je dirais, là-dessus, par son attitude. Et si jamais il la gagne, on peut dire qu'il a une partie. Hein, parce qu'on sait très bien qu'un résultat ne se joue pas seulement sur le terrain. Il y a aussi des composantes, comme tu l'as dit, qui sont en dehors du rectangle vert. Et ça en fait partie.
Et il a eu une grande part de responsabilité sur la qualification de la Côte d'Ivoire et puis qu'ils arrivent jusqu'à la finale. Il est parti au bon moment. Et puis là, donc le jeune qui vient d'arriver, qui est Emers Faye, a fait sur le premier match contre le Sénégal, a fait des choix forts. Il a changé 5 titulaires de l'équipe qu'ils ont joué en phase de poule. Donc si tu changes 5 titulaires, donc tout ça, c'est le travail de Jean-Luc Gasset qui a fait que. Et lui, il est venu, il a fait une continuité du travail de ce monsieur-là. Il a fait du bon boulot. Donc il est parti au bon moment. Peut-être comme il y a des réalités en Afrique. Donc les supporters, les dirigeants et puis tout le monde, il faut en tenir compte. Donc tout ça, ça se joue sur ça. Donc parce que poule, ils ont pas été bien. Et puis là, de ce coup. Ils se transcendent et puis ils sont en train de faire des miracles. Donc j'espère que ça va passer dimanche pour eux. Mais bon, attention à Nigeria.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, parce que tu n'étais pas là tout à l'heure, hein, et Nasser non plus, puis on a parlé du club qui est déjà vraiment à cœur, c'est l'OM.
Ouais.
Et on parlait, alors que je précise, hein, moi j'ai joué que 4 mois à l'OM, et aujourd'hui c'est l'OM à vie. Et on me posait la question de ce que je pensais de ce qui se passait aujourd'hui. Nasser, on va en parler beaucoup mieux que moi. Mais ce que je veux dire, c'est la même chose, l'OM, c'est la même chose qu'en Afrique. Il y a des épiphénomènes sur lesquels tu ne peux pas, tu n'en pourras pas agir. Parce que c'est comme ça et ça restera comme ça, quoi que tu fasses. Tu vas pouvoir peut-être les lisser, tu vas pouvoir avoir des hommes qui vont peut-être arriver à communiquer, à s'entendre, qui va faire que ça va peut-être calmer à un moment donné des tensions, des choses comme ça. Mais tu n'empêcheras pas le phénomène. Il existe, il est là et il sera toujours là. Les Yankees, ils seront toujours là.
Winner.
La commanderie par la petite route, ça sera toujours là. C'est comme ça. Et il faut que ça reste comme ça. Maintenant, on parlait des hommes. Et on s'en fout de nos générations. Moi, j'ai 62 ans, toi, tu as 40 balais. Nasser,
88.
Plus proche de moi.
Il y a 35 ans, Nasser.
35,
Nasser.
J'ai d'accord, Nasser, que ces choses-là, c'est pas une question de qualité, de trouver des très bons dirigeants, des très bons entraîneurs, des très bons joueurs, on n'en trouve pas toujours. Attends, mais je trouve que, par exemple, à l'OM ou en Afrique, quand tu diriges une sélection, on ne tient pas compte de ces éléments sur lesquels tu n'as aucune influence.
Ouais.
Aucune.
Ah bah, attends, moi, j'ai une question.
À l'OM, on a parlé de ce qui s'est passé, des soi-disant menaces, machin, tout ça. Entre guillemets, c'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout.
Ouais.
On s'en fout, c'est un système qui est comme ça. Mais... il y a des clubs de supporters qui mettent une pression et il faut trouver comment harmoniser tout ça. Et ça, c'est compliqué. Ça va au-delà de la compétence.
Tu as raison, Pascal. Par contre, on va poser la même question à Nasser. Puisqu'il est passé, c'est un formateur dans l'âme, pour moi, Nasser, passé par Rouen, Caen, Le Havre, et donc le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Tu as été entraîneur intérimaire quelques matchs, une dizaine de matchs, il me semble, à peu près. Et en fait, tu es parti de l'OM parce que c'est toi qui as donné ta démission, et tu étais en désaccord avec la stratégie du club, par rapport à la formation, par rapport à des choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai posé cette question à Pascal avant que tu sois à l'antenne. On se demande sportivement où va le club, parce que tu connais le président, puisque c'était à ton époque. Où va le club sportivement? Quels sont les choix qui ont été faits pour le mercato? Il n'y a aucun joueur de formation qui ne monte dans cette équipe première. Pour moi, l'OM régresse depuis que tu es parti, il n'y a aucun jeune qui pointe son nez, en fait.
Ah, l'OM, on rebondit un petit peu ce qui vient d'être dit. C'est vrai que là, il faut, quand on est dans un contexte, soit en Marseille ou en Afrique, il faut travailler avec je dirais, les paramètres qui existent. On sait que, par exemple, l'Olympique de Marseille, c'est impossible de dissocier ce club-là de la ville. C'est ancré dans la ville. Et qui dit ancré dans la ville est ancré chez les Marseillais. C'est de père en fils, l'amour. Et quand on rentre dans ce club, on y est attaché à vie. Donc il faut comprendre un petit peu l'environnement et intégrer l'environnement dans son fonctionnement. Aujourd'hui, quand je suis parti de l'OM avec l'intérim, j'ai gardé vraiment de très bons rapports avec le public qui a apprécié ce petit passage-là.
Ouais.
Et je sais que si j'étais resté plus longtemps avec l'équipe première, on aurait peut-être eu des résultats négatifs et je me serais fait allumer. Mais il faut l'intégrer, il ne faut pas en avoir peur. Il faut avoir le courage de dire oui, l'OM c'est particulier, l'OM a son public, a une grosse place dans son fonctionnement. Il faut l'intégrer parce qu'ils aiment leur club. Je peux vous garantir que j'ai jamais vu des gens aimer autant leur club. Et donc, il faut intégrer ces paramètres qui sont à l'extérieur du rectangle vert. Et puis bon, c'est vrai que ma démission, parce qu'on n'était plus en ligne par rapport au départ de ma mission, c'est-à-dire faire en sorte que l'Olympique de Marseille puisse fournir des joueurs pour l'équipe, le centre de formation de l'Olympique de Marseille puisse fournir des joueurs pour l'équipe première. C'est vrai que les gamins qu'on avait au centre de formation, c'était des bons joueurs, mais ce n'est pas des joueurs qui étaient faits pour l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille, il faut prendre des joueurs qui ont déjà leur jeune âge, une forte personnalité, un grand caractère, même si techniquement il est un petit peu moins bien. Et on a vu qu'à l'OM, beaucoup de joueurs qui ont réussi par le passé n'étaient pas forcément tous des Zinedine Zidane, mais c'est des joueurs qui avaient du cœur, forte personnalité. Et malheureusement, on ne recrutait pas ce type de joueurs. On est arrivé sur les trois années où j'étais là-bas à attirer, grâce aussi à Pablo Longoria, à attirer des jeunes joueurs qui avaient ces caractéristiques, et notamment des joueurs du CRU, de la région de Provence, sur la région de la Provence. Et malheureusement, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé où on a ciblé seulement de la post-formation des joueurs venant de partout, pour lequel je ne suis pas contre. Hein. Je disais toujours à Pablo que si demain on ne pouvait pas te fournir des joueurs du calibre de l'Olympique de Marseille, il faut vraiment se concentrer sur la post-formation, sur des joueurs des 18, 19, 20 ans, pour amener des joueurs pour notre équipe première. Et malheureusement, on est parti beaucoup plus sur la post-formation que donner la chance aux garçons de la formation. Et donc le désaccord était un petit peu là, que j'ai totalement respecté, parce que c'est pas moi le dirigeant numéro un, mais après, c'est vrai que Pablo Longoria, avec sa politique, il a quand même eu de la réussite pendant 2 ans, mais c'est vrai que à la longue, il peut y avoir certaines limites quand on change d'entraîneur chaque année, quand on change 8-9 joueurs chaque année. Il faut avoir une lisibilité de la politique sportive, mais cette politique a eu à un moment donné une réussite. Il ne faut pas non plus couper la tête à tout ce qui a été fait.
Non, mais tu sais, Nasser, c'est pas le but, c'est pas du tout l'objectif de couper la tête à M. Longoria, que je personnellement je ne connais pas. Ce que je veux dire, c'est par rapport à ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que toi qui as vraiment été au cœur de la formation et après de la post-formation, je me dis, au foot, on dit toujours un entraîneur, il a des phases. Tu sais, au bout d'un moment, tu sais que tu dois partir, il faut changer. Un président, pour moi, c'est la même chose, tu vois, et encore plus à Marseille. Mais par contre, la formation, il faut travailler sur la durée. Et ce que tu dis par rapport aux caractéristiques des jeunes qu'on mettrait dans le centre de préformation et de formation, je te rejoins. Mais il faut y aller sur la durée. Et pourquoi on n'est pas capable de mettre en place ça à l'OM? C'est ça que je ne comprends pas. C'est pas la seule réponse, mais je pense qu'on n'intègre pas la spécificité de Marseille. Marseille,
un public très exigeant. Il veut du résultat. On a l'Olympique de Marseille, a besoin d'être dans les trois premiers, de jouer chaque année la Champions League. Donc on doit être capable de planifier ça. Se dire, aujourd'hui, est-ce qu'on a au centre de formation des joueurs qui ont été restés ? Je vais dire, écoute, dans trois ans, je pense qu'on a des joueurs qui sont capables, au poste de milieu de terrain ou d'attaquant, d'arriver. Il y en a peut-être deux ou trois. Okay ? Eh bien, on doit être patient pour ces deux ou trois. Et en parallèle, on peut recruter des joueurs sur les deux, trois prochaines années pour des postes que l'on n'a pas, qui après vont laisser la place aux autres. Donc, parce que comme il y a l'exigence des supporters, du public, de l'Olympique de Marseille qui doit jouer la Champions League, on doit être capable de jongler là-dessus. Donc, mais ça doit être une politique, et je suis d'accord, à long terme. Parce que la formation, c'est pas one shot.